France Culture.
L'agence France Presse a diffusé hier l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la mobilisation de quelque 4000 gendarmes, policiers, douaniers, membres des forces Sentinelles pour interpeller des clandestins lors d'opérations de contrôle national dans les gares et les bus contre l'immigration illégale. 48 heures lors desquelles un nombre important d'agents des forces de l'ordre sont requis. De jouer à l'ICE façon Trump, la désormais tristement célèbre agence fédérale de l'immigration qui depuis janvier cueille les sans-papiers à domicile, dans les rues ou au travail, comme par exemple lorsqu'elle a effectué très tôt des raids sur le campus de Columbia University. 48 heures, hier et aujourd'hui donc, qui précède demain la journée internationale des réfugiés, une journée qui sera dignement célébrée sur le campus Condorcet. Et c'est la professeure de sciences politiques Pascal Laborier qui viendra nous en parler à la fin de l'émission dans la rubrique Actualité.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Mais une émission cette semaine consacrée à un tout autre sujet, les arts de l'écoute, que la philosophe Pauline Nadrini et l'artiste Félix Blum vont venir nous permettre de mieux saisir, de mieux comprendre. Bonjour Pauline Nadrini.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous publiez un livre dans ces précieuses éditions MF, Sonder le monde, art sonore, réalisme, environnement. Alors j'ai envie d'inscrire cette émission dans une série de précédentes, dont une avec Jonathan Stern, tout ce qu'on appelle les sound studies. On a parlé il y a quelques mois ici avec votre éditeur, Bastien Gallet, d'un numéro de la revue critique qu'il avait co-dirigé, auquel vous avez contribué sur ces questions de son. Mais vous apportez avec ce livre une contribution importante à la façon qu'on a de penser notre rapport au son, aux arts sonores tels qu'ils sont déployés par de multiples manières, en fait, par des gens très très différents. On aura un exemple avec le travail artistique de Félix Blum en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, j'aimerais qu'on commence par une situation singulière, une situation d'ailleurs qui a servi à beaucoup de chercheurs et de chercheuses dans plein de disciplines, parce qu'elle a offert un terrain d'expérience et d'expérimentation particulier. C'est la pandémie de Covid et plus précisément ses effets sociaux, c'est-à-dire le confinement et ce que ça a produit socialement. Or, du point de vue des sons, du point de vue de ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, le paysage sonore, ça a offert l'occasion de réfléchir, de se trouver face à des situations inédites et donc de se poser peut-être les questions différemment.
Oui, en effet, à vrai dire, mon livre s'ouvre sur la description de deux paysages sonores que j'ai pu enregistrer en situation de pré-confinement, un mois avant le confinement, dans une grande ville, une grande métropole, et pendant le confinement. Et l'idée, c'était d'ouvrir cette réflexion sur les arts sonores, la réalité contemporaine, avec ses médias aussi, et l'environnement, avec sa dimension, cette dimension de pensée écologique, sur ces deux descriptions. Parce que qu'est-ce qu'on entendait à travers la comparaison de ces deux paysages sonores ? C'était d'abord voilà, un paysage de métropole avec le trafic aérien rémanent, le trafic des automobiles, des marqueurs sonores d'identité d'une ville qui peut être des dialectes locaux, qui peut être des sons musicaux, qui peuvent être aussi des sons d'ambulance ou de sirènes de police, etc. Avec une sorte de brouhaha, ce que le fondateur de l'écologie acoustique a appelé un environnement lo-fi, peu qualifié en termes d'audibilité. Et puis quand on compare la même rue à la même heure, trois mois plus tard, en avril, au cœur du confinement lié au Covid, ce qu'on entend, c'est les sons d'insectes. On entend des avions, mais ils sont devenus des signaux que l'on perçoit comme des événements ponctuels et non plus comme un fond rémanent. Et on entend le bruit de mes pas alors que j'enregistre dans la rue, et des bruits de pas qui ne sont pas simplement une cadence et un rythme, mais qui ont un timbre. On entend l'irrégularité du sol. Et donc c'est sur cette comparaison que j'ai souhaité ouvrir ce livre, puisque paradoxalement, vécu comme une situation d'enfermement, tout en étant donc une situation d'enfermement, le confinement a parfois été l'occasion d'entendre différemment la réalité qui était à nos fenêtres ou que nous pouvions entendre par une maigre heure de promenade journalière.
ça a été une manière d'apprendre à entendre et surtout à écouter, un peu comme certains nous ont invités récemment à apprendre à voir ou à regarder, mais c'est vrai que les sons ont traditionnellement moins fait l'objet d'attention philosophique que les images, clairement.
Alors, on a tendance à le penser, à se dire que Louis est le parent pauvre de l'histoire des idées et de la philosophie. En fait, il n'en est rien. Le son a une présence dès l'origine de la philosophie, sous la plume de Platon, sous la plume d'Aristote, de Saint-Augustin, de Rousseau, de Kant, même si c'est de manière un peu négative, de Nietzsche, évidemment. Donc le son, il y a un fil rouge du sonore dans l'histoire de la philosophie, absolument. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le son inquiète les philosophes. Et très vite, les philosophes ont le besoin d'enrégimenter le son dans une forme de rationalité, celle de la tonalité, celle de la mesure, celle d'un temps bien réglé, dirait Saint-Augustin. Or, ce qui m'intéresse précisément, c'est comment, à partir du XXe siècle, naît une pensée du bruit, de ce reste qui inquiète les philosophes et qu'il s'agirait donc de sonder.
The Rest is Noise, c'est le titre d'un livre d'Axel Ross, d'ailleurs.
Absolument.
Sur ce type de musique. Mais alors, vous êtes intéressé à ce moment du confinement et vous observez un retour de l'audio aussi dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup associé le confinement à la visio, la fameuse visio, peut-être une des choses qu'on a d'une certaine façon gardé de cette expérience, la manière de se parler autrement qu'en présence physique pour des réunions. Mais en fait, ça a été aussi l'occasion de revenir vers le téléphone. Alors là, il y a des différences générationnelles. C'est vrai que pour des gens qui ont grandi dans les années 70 ou 80, le téléphone a été un média très important, très précieux. Il était rare. D'abord, il n'y en avait qu'un dans un foyer, etc.
On devait se le partager.
Voilà, c'était. Mais ça n'empêchait pas de passer des heures au téléphone. Et en fait, c'est une chose vers laquelle un certain nombre de gens ont fait retour dans ce moment du confinement et qui vous intéresse aussi.
Oui, alors ça a été un retour ponctuel, mais je crois qu'il est très important de le penser. C'est vrai qu'on pense à la visio, qui s'est d'ailleurs généralisée suite au confinement. Il y a une sorte de passage à la limite. Maintenant, voilà, on propose tout le temps des réunions sur Meet ou sur Zoom, beaucoup plus qu'avant. Mais c'est effectivement un temps qui a permis le développement, le renouvellement des conversations téléphoniques. Alors avant d'analyser les arts sonores, dans l'introduction du livre, je développe une réflexion sur ce phénomène, le fait que les communications téléphoniques ont énormément augmenté pendant cette période, et également l'émergence de médias pendant le Covid, tels que Clubhouse ou certaines applications qu'on appelle Audio First.
Alors, pour préciser, Clubhouse, je ne sais plus, c'est celle-là que Twitter, à l'époque, ça s'appelait comme ça, proposait. C'est au fond des espèces de pièces virtuelles dans lesquelles, lesquelles les gens pouvaient communiquer non pas one-to-one comme au téléphone, mais one-to-many ou many-to-many, comme disent les Américains qui réfléchissent à ça. C'est-à-dire en fait des pièces collectives dans lesquelles, ce qui n'est pas évident, on peut se parler non pas par écrit, mais avec le son.
Oui, absolument. L'idée, c'était de participer à un salon de conversation sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, ça allait de sujets quotidiens, des questions d'actualité politique. Ça a d'ailleurs été un média extrêmement important dans le cadre des émeutes suite à l'assassinat de Floyd. Et ça a joué un vecteur important à ce niveau-là.
Pour Black Lives Matter.
Mais l'idée, en fait, c'est que chacun pouvait prendre la parole tour à tour. Et ce qui m'a intéressé, en fait, dans ces applications Audio First, c'est que, paradoxalement, les utilisateurs recherchaient cette lourdeur du médium sonore. Le fait qu'on ne peut pas aller plus vite, le fait qu'il faut attendre que l'autre ait fini de parler, que les paroles ne peuvent pas se télescoper. Ce qui est en fait un désir non pas simplement d'entendre l'autre par sa voix, ça c'est déjà une question, mais il y a une forme d'incompressibilité du temps de la parole. Et nous avions besoin de ça, qui est peut-être caractéristique d'une forme de réalité.
Et qu'il faut être capable de régler ce partage sans l'image, en quelque sorte.
Absolument.
Alors là, on va faire l'expérience ce soir, parce que Félix Blum sera, lui, à distance.
Voilà.
Donc on va retrouver ce type de choses. Alors que là, on est face à face, c'est plus facile de savoir quand on peut s'arrêter, quand l'autre peut prendre le relais ou pas, par exemple.
En fait, il y a aussi une dimension de présence, hein, qui est fondamentalement liée au médium sonore. Certainement, qui doit être problématisé, hein, c'est pas du tout évident que ce soit de la présence. Mais l'expérience du son est foncièrement liée dans notre imaginaire à l'idée de présence. Et quand vous êtes sur une session Zoom, vous diriez jamais que c'est réellement la personne qui est sur votre écran dans une petite vignette. On sait très bien que c'est une vidéo. En revanche, c'est bien la personne que vous entendez, c'est bien sa voix que vous entendez, quand bien même il y a exactement le même nombre de médiations et tout aussi complexe. Et donc c'est ces effets de présence qui m'ont intéressé pendant cette période du confinement.
De la supériorité de la radio sur la télévision,
voilà.
On peut le dire comme ça, mais au fond, alors vous vous intéressez à un certain nombre de ces nouvelles technologies, moyens de communiquer, la section qui suit est consacrée à l'ASMR.
Oui, alors je tenais à travailler sur l'ASMR parce que c'est d'ailleurs une pratique qui a grandi de façon exponentielle pendant le confinement. Alors certains y verraient simplement quelque chose de palliatif, besoin de contact, de relaxation, avec une forme de fétichisme sonore. Donc l'ASMR, je pense que beaucoup d'auditeurs de radio connaissent l'ASMR, donc je ne vais pas expliquer en détail, mais c'est ce type de contenu qui propose un stimulus dans une écoute très proximale. Alors il n'y a pas que de l'ASMR sonore d'ailleurs, mais là je me concentre uniquement sur l'ASMR sonore, fait à base de voix chuchotées ou de ce qu'on appelle de soft speaking, de crissement, de tapotis, souvent avec des personnes qui jouent une logique de soin, d'attachement, de compassion. Il y a eu énormément de contenus diffusés en ASMR qui ont rencontré un énorme succès auprès des auditeurs. Et ce qui m'a intéressé au-delà de l'accès relaxant, c'était cette gestion de l'exposition au son, parce que dans l'ASMR, il y a toujours une logique de plaisir qui peut très vite basculer dans l'inconfort. Tout dans l'ASMR est question de ce qu'on appelle « the trigger ». Qu'est-ce qui va déclencher cette satisfaction qui est comme un chatouillement? Qu'est-ce qui ne va pas le déclencher? Il y a vraiment un jeu hyper esthésique sur l'attention auditive. Et le fait que pendant le confinement, on ait prêté particulièrement attention, qu'on ait prêté oreille à ce type de contenu me semble révélateur.
Alors ça, c'est des choses qui sont dans le prologue. Dans le prologue aussi, vous disiez en commençant tout à l'heure, Pauline Nadrini, qu'il y avait cette situation du confinement. Mais il y a aussi une autre situation qui est une situation historique qui est très importante pour vous, parce que vous y revenez à la fin du livre et puis elle donne d'une certaine façon son titre au livre, « Sonder le monde ». Elle nous ramène dans un moment connu, bien connu, important de la philosophie américaine, avec William Thoreau et son fameux pound, son fameux lac. Je vous laisse nous raconter, au fond, pourquoi cette histoire de lac sans fond et de tentative de la part de Thoreau de vérifier s'il y a bien un fond est une occasion de penser, au fond, le rapport à la mesure, enfin le rapport au réel sonore en particulier.
Alors c'est vrai que le motif du lac qu'on vient sonder revient tout au long du livre. Il ouvre en prologue Sonder le monde. En fait, Henry David Thoreau, quand il était donc sur les terres d'Emerson, dans cet isolement très relatif de sa cabane près de l'étang de Walden, avait entendu parler d'une légende colportée par les villageois du coin qui disait que le lac n'avait pas de fond et qu'il menait par une sorte de raccourci géologique à la Jules Verne, de l'autre côté du globe, aux antipodes. Et donc, Thoreau, qui est un précieux observateur de la nature, qui est le père de ce qu'on appelle aujourd'hui, un des pères de ce qu'on appelle aujourd'hui le nature writing, au fond, se dit ni une ni deux, je suis arpenteur, puisqu'il est arpenteur de son métier, je vais prendre ma barque, il le fait en hiver, pardon. Je vais faire des trous dans la glace, ou plutôt utiliser d'ailleurs les trous que les pêcheurs ont fait, et puis je vais aller avec une ligne de sonde et une pierre, d'ailleurs il donne exactement le poids de la pierre, vérifier cette légende, évidemment, le lac a un fond et il en produit une cartographie.
Il est assez profond d'ailleurs. Mais
il est assez profond, alors il y a tout un très beau passage où il commente toute cette topographie du fond du lac. Et on pourrait croire qu'il y a là une sorte de geste de réduction, de mise à plat de l'imaginaire, ah non, il y a quelque chose d'un petit peu triste à se dire, je vais tordre le cou aux légendes en allant mesurer un lac censé être infini. Mais c'est tout le contraire qui se produit, parce que dès lors que vous produisez la mesure du lac et que vous en faites le relevé, vous donnez l'occasion d'une réflexion sur une topographie qui, en un sens, est tout aussi merveilleuse quand vous vous rendez compte que vous avez des montagnes au fond du lac. Vous prêtez attention à l'expérience des pêcheurs qui ont fait ces trous dans la glace et qui sont allés chercher des outils dans la nature, des larves à l'endroit où ils savent chercher. Et vous avez tout un commentaire de l'environnement de ce lac qui est en fait tout aussi merveilleux, mais ancré dans la juste mesure du réel. C'est là que ce geste m'a intéressé.
Et ce verbe aussi, sonder, ce mot, sondés qu'on rapproche par l'oreille de sound. Un sound aussi, en cartographie marine, ça désigne des passages, des endroits.
Oui, alors j'étais contente de ce motif, au fond, parce qu'il se prête à toute une série de prolongements ou d'évocations assez heureuses, et notamment en anglais, puisque to sound, c'est effectivement sonder, au sens où les Anglais diraient to probe, c'est-à-dire inspecter un certain espace, une certaine profondeur. Ça renverrait aussi au sound, même si en fait, étymologiquement, c'est pas du tout la même racine. L'une vient du sound, la mer, l'autre vient de sonus, hein, le son. Mais bon, ça marche bien. Le son, comment on peut sonder avec les sons, puisqu'une technique de sonde, c'est d'utiliser une expérience sonore, que ce soit celle du bâton qu'on fait résonner quand on avance sur la glace pour voir si ça rend tel ou tel son et si l'épaisseur de la glace permet d'y circuler, jusqu'à la sonde bateau qu'on utilise en océanographie. Et to be sound, être concret, être sain, être robuste. Et donc, il y avait toute cette série de jeux sur le terme sound qui convenait bien.
Alors, votre livre s'ouvre sur ce prologue dont on a largement parlé, mais avant le prologue même, il s'ouvre sur un cahier photo, des photos qui sont en couleur, imprimées sur un beau papier différent, et des photos qu'on retrouve par la suite dans le livre, qui jalonnent le livre en noir et blanc. Alors, aussi paradoxal que ça puisse être, moi j'ai envie de poursuivre notre conversation sur les sons à partir des images. Images qui ouvrent votre livre. Et la première, c'est celle d'une jeune femme avec une conque, un de ces coquillages dans lequel on entend la mer, on écoute la mer, contre son oreille. Qui c'est ?
Alors, c'est Eliane Radig, qui est une compositrice qui est une des figures pionnières de la musique expérimentale du XXe siècle. Elle a un parcours très intéressant parce qu'elle vient d'abord du GRM, donc de Radio France,
groupe
de recherche musicale de Radio France, où elle a travaillé avec un certain nombre de chercheurs, mais elle s'est très vite émancipée de ce cadre-là.
Là, on est au début des années, enfin après la guerre,
oui,
juste après la guerre.
Début des années 60, et elle s'émancipe de cette pratique musicale pour développer une pratique sur son synthétiseur, ce qui déplaît très fortement, notamment à Pierre Henry, et donc elle rompt avec le GRM, elle part aux États-Unis où elle développe sa propre pratique, et elle va développer des musiques dans un temps très long, avec des variations très lentes, des micro-variations, des drones, extrêmement enveloppantes, dans laquelle l'écoute littéralement plonge et se laisse emporter par une attention presque infinitésimale au changement, et en même temps où on s'immerge totalement. Alors j'ai choisi cette image parce que cette figure qui écoute le son dans la coquille, elle a une importance particulière dans les arts sonores du XXe siècle. Déjà on la trouve pourtant chez le père de l'électroacoustique en France, chez Pierre Schaeffer, qui a fait tout un essai sur la radio ou le pavillon du phonographe comme coquille, qui nous donnerait à entendre la voix du monde. C'était à l'époque une publicité qui fait la couverture du livre, des postes de la TSF, en un clin d'œil la voix du monde, et on a une sculpture de Carpeaux avec un faune qui porte aussi une conque à son oreille.
On y reviendra sur Pierre Schaeffer qui fait l'objet d'une exposition dans le hall de la maison de la radio en ce moment. Mais donc, je vous laisse poursuivre.
Et donc, qu'est-ce qu'on entend dans cette coquille ? Alors, il y a une chose un peu ironique qu'on peut remarquer, c'est que ce flux de la mer qu'on entend dans la coquille, qu'on a tous un jour placé à son oreille, c'est en fait le son amplifié de notre propre circulation sanguine. Il y a une forme de réflexivité, là même où on pense entendre la mer, c'est nous que nous entendons. Alors, on peut y voir une série d'évocations heureuses sur la correspondance entre la cochlée, le coquillage, le milieu à queue de l'oreille interne et l'océan. En tout cas, dans le cas d'Eliane Radig, c'est l'idée d'une écoute immersive. On écoute comme on s'immerge dans le son. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'artistes sur lesquels je travaille dans ce livre, que ce soit donc Eliane Radig, mais aussi Pauline Oliveros, qui a fondé ce qu'on appelle le courant du deep listening, ou encore Brian Eno, qui a fondé l'ambient music, ce sont des personnes pour qui on n'écoute pas quelque chose, mais on écoute dans quelque chose. On écoute dans le son. Mais et ça, cette écoute à la coquille, c'est cette idée.
On ne peut pas s'empêcher de rapprocher ça de ce qui s'est passé plus généralement dans les arts dits plastiques, avec notamment le travail alors avec le son de John Cage aussi, mais de la même façon que Buckminster Fuller, que tous les gens qui ont inventé des be-in, en fait, des espaces immersifs, et notamment dans la suite du Bauhaus aux États-Unis, ce que raconte bien Fred Turner. En fait, il y a vraiment ce moment de l'immersif qui naît en fait à la toute fin des années 30, au début des années 40.
Oui, et en cela, il y a une connexion très profonde entre les mutations des arts sonores et l'architecture. Hein. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, un grand nombre de chercheurs qui travaillent sur les arts sonores et le design sonore sont dans des laboratoires d'architecture. Je pense notamment au Cresson, hein, à Grenoble, où il y a réellement cette porosité.
Alors la deuxième image, on va pas avoir le temps de toutes les faire, mais il faudrait que vous lisiez le livre pour les découvrir, mais elle nous entraîne dans un lieu d'exposition avec une installation et du bois.
Oui, c'est une exposition d'une artiste qui s'appelle Camille Normand, qui est une artiste américaine. Là, c'est une exposition qui a eu lieu à la Dia Foundation à Chelsea, qui s'appelait Plexus. Et il y avait deux salles, et dans celle-ci, vous aviez des pilastres en bois qui étaient exposés dans cette salle, parfois contre le mur, parfois par terre. On était invités, au fond, à s'asseoir dessus. Et il y avait des haut-parleurs qui étaient dissimulés un peu partout et qui faisaient résonner ces palettes de bois avec un cœur dans lequel on entendait parfois aussi des grincements de dents. Et là aussi, impression de vibration, d'être immergé dans la musique. Alors c'est vrai que tout le premier, la première partie du livre, que j'ai intitulé « Good Vibrations », mais avec un point d'interrogation, parle et essaie aussi de prendre une distance critique par rapport à ce paradigme de la vibration qu'on retrouve énormément hein, dans les arts sonores du XXe siècle, toujours sur un mode, valorisé, c'est bien de vibrer avec la musique, de ne pas être simplement une écoute qui vise le son, mais d'avoir un accueil du son, soit de manière beaucoup plus inquiète quand on parle de musique qui serait purement affective, réactionnelle, sans distance critique. Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu ces débats et cette exposition me donnait lieu de le faire à partir d'un exemple un peu précis.
Bon, ce sera au fond la manière pour la suite dans les idées de rendre hommage à Brian Wilson, disparu il y a quelques jours. Good Vibrations, mais on fait une pause dans ces images. Vous mentionniez le nom de Pierre Schaeffer, c'est l'un des noms qui revient beaucoup dans votre livre, avec celui de Michel Chion aussi. J'aimerais qu'on parle des deux, parce qu'au fond, ils partagent le fait de ne pas être ni l'un ni l'autre des philosophes, au sens académique du terme, mais ce sont des gens qui ont réfléchi à partir d'une pratique artistique pour Schaeffer, ou d'une pratique critique sur l'art pour Michel Chion, et notamment du cinéma. Et pourquoi leur accorder cette place si importante, en quoi ce sont des gens qui vous ont beaucoup aidé à réfléchir sur les arts sonores?
Alors, en réalité, dans Sonder le monde, ils n'ont pas une place si importante, ou du moins,
on
les retrouve de manière critique. C'est-à-dire
oui,
qu'initialement.
Ils vous aident à penser, en tout cas.
Initialement, mes recherches portaient sur ces figures-là, ou du moins sur la manière d'écouter et de produire des sons qu'ils ont modélisés ici même.
Ici même, c'est-à-dire à la maison de la radio.
À la maison de la radio, tout à fait, sur le traité des objets musicaux, sur le concept d'objets sonores, sur toute cette pratique d'écoute qui vise, certes, à enregistrer, mais quand on dit musique concrète, on se trompe lourdement en pensant que la musique concrète a une dimension de référence au bruit. C'est une musique qui, en fait, est extrêmement abstraite, puisque l'idée, c'est par la situation qu'on dit acousmatique, l'idée d'une coupure, qui est la coupure radiophonique, entre l'image, entre la source du son et son écoute, de désarticuler notre perception du son de ce dont il est le son. Et donc, la première partie de mes recherches a travaillé là-dessus, comment du son qui est toujours lié au corps sonore, on arrive à détacher quelque chose comme cet objet sonore. Dans la situation du confinement et dans cette pratique d'écoute qui a aussi été la mienne à travers l'enregistrement de mon environnement sonore quotidien, j'ai été conduite à remettre un peu au travail cette question de la source du son. Et dans Sonder le monde, l'idée pour moi était de sortir de cette zone de recherche qui portait sur les arts sonores électroacoustiques qui découplent ainsi le son de sa source et de revenir à cette question. Que fait-on de ce que l'enregistrement enregistre? Et en quoi cette présence, toujours certes problématique, mais tout de même présence de la source du son, est toujours importante? En quoi elle nous dit aussi quelque chose à travers les pratiques d'enregistrement sur comment va le monde, au fond?
C'est intéressant parce que ça oblige à réfléchir à ce que c'est que l'enregistrement, qui est peut-être trop considéré comme un ça va de soi, beaucoup plus que s'agissant de la représentation à propos des images. Il y a eu beaucoup de réflexions sur ce que c'est que la représentation visuelle. Moins sans doute sur l'opération qui consiste à enregistrer, dont on a peut avoir le sentiment qu'elle est purement neutre en fait, et qu'on peut prélever comme ça du son et le diffuser. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça.
Alors c'est vrai qu'on doit à Pierre Schaeffer et à Michel Sion une réflexion assez tôt. Pour Pierre Schaeffer, ça commence dans les années 40, avec ses expérimentations avec Copeau à la radio, sur une réflexion donc sur la nature de l'enregistrement. Que fait l'enregistrement s'il ne capture pas simplement un certain son, s'il le manipule, s'il le traduit, s'il change notre manière d'écouter. Tout l'intérêt de la musique concrète, avant tout, ça a été de porter notre attention sur l'efficacité de l'enregistrement, ou du moins les effets de l'enregistrement sur notre manière d'entendre, disait Schaeffer, plutôt d'ailleurs que de comprendre. Et c'est sur ces mutations qui sont intéressantes à penser. Ce qui m'intéressait ici, c'était cependant, là aussi, de prendre une certaine distance par rapport à ces traditions-là. Certes, tout enregistrement est une traduction. Il y a des médiations en fonction du dispositif, en fonction de l'amplification, des filtres, de toutes ces choses qui font que j'ai pas simplement affaire au réel brut. Mais il en va tout de même dans l'enregistrement d'une certaine extraction. C'est difficile à penser parce qu'on a toujours l'idée que quand on enregistre quelque chose, on n'extracte rien, on touche à rien, c'est inoffensif. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une ingérence, une pénétration de celui qui enregistre dans le milieu enregistré? Et je pense que l'image de la sonde renvoyait à cela. Sonder, il y a aussi quelque chose d'invasif qu'il y a à prendre en considération, et travailler sur l'enregistrement de terrain, aussi bien ethnographique que naturaliste, à travers des travaux scientifiques mais aussi artistiques, m'a permis de mettre un peu au travail cette question.
Cette intrusion, d'ailleurs, ça vous fait réfléchir au stéthoscope, ce que les sondes studies ont fait depuis longtemps, et à critiquer l'approche de Foucault, d'ailleurs, là-dessus.
Oui, parce que au fond, il y a dans l'usage du stéthoscope l'idée donc d'une écoute certes médiane ou médiatisée, mais qui est toujours liée. Alors c'est Peter Sandy qui a cette réflexion très juste, à d'autres pratiques d'écoute qui étaient avant elle martelante. La sémiologie sonore, c'est aussi être capable, en tapotant sur le corps, d'avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, avoir cette écoute tactile, cette écoute contact, c'est une image très intéressante qui est très loin aussi de l'idéalisation du son qu'on trouve chez Pierre Schaeffer, par exemple.
Alors, dans ce livre, on a deviné peut-être aussi un des enjeux philosophiques de votre travail, Pauline Nadrini, c'est de, à partir de la question des arts sonores, contribuer de façon plus générale, au fond, à poser la question du réalisme en philosophie.
Alors, c'est une vaste question. Je la pose d'abord peut-être à partir de la perception de l'environnement, puisque c'est tout de même le fil directeur d'un certain nombre de chapitres de ce livre. Qu'est-ce qu'il faut entendre par réalisme ici? Le réalisme ici n'est pas au sens du réalisme en littérature, hein, d'une reproduction qui se voudrait objective de la réalité. On n'est pas dans un régime de la représentation. S'il y a réalité, c'est bien plus au sens d'une effectivité. Quelque chose, quand je sonde, quand j'enquête dans un certain terrain, hein, qu'il soit un terrain social pour l'ethnographie sonore ou un terrain dit naturel dans l'audionaturalisme, quelque chose me revient et m'expose dans mon écoute. Sonder, c'est aussi raisonner avec ce qu'on sonde et marquer aussi dans son corps, dans son écoute, ce que l'on est allé inspecter, parfois à l'aveugle, à tâtons et au contact. Et c'est plutôt dans ce sens que je parlerai de réalisme, alors non pas comme un effet de réel rhétorique, mais plutôt comme cette manière de ressentir en soi, de faire l'épreuve de ce dont on fait l'enquête. Et ça, je pense que les arts du son, les pratiques sonores permettent de le faire de manière peut-être beaucoup plus spectaculaire que les pratiques visuelles.
Alors d'habitude, à la suite dans les idées, je choisis toujours un extrait musical dans l'actualité et qui n'est en rien illustratif de ce dont on parle. Aujourd'hui, comme on parlait de musique, je me suis posé la question, est-ce que je garde ce principe? Et au fond, j'ai trouvé une solution qui permet de tenir les deux bouts, de continuer à scruter l'actualité musicale, puisqu'on va entendre un extrait d'un disque qui sort là, qui est sorti la semaine dernière, mais d'un musicien que vous citez dans le livre, dont il y a même des reproductions de certains albums dans votre livre, qui est un musicien extrêmement important, qui est Brian Eno. Brian Eno qui a composé beaucoup d'albums, mais qui a composé aussi la petite musique du démarrage du système de Microsoft il y a longtemps, et qui, à ce propos, a posté récemment sur les réseaux sociaux un message pour se désolidariser des prises de position du groupe, en l'occurrence. Mais revenons à Brian Eno. En quoi, avant qu'on écoute ce morceau, extrait d'un disque qu'il co-signe avec Beatty Wolf, en quoi c'est quelqu'un qui vous a aussi intéressé, aidé à penser?
Alors, il y a tout l'aspect pop de Brian Eno qui est magnifique. Et après, moi, je me suis intéressée dans le livre pour ce qu'on appelle la musique ambient, et pour les albums, les projets, et puis les écrits qu'il a produits.
Music for Airports, par exemple.
Exactement. Et en fait, Brian Eno a conscience que la musique, à travers des firmes comme Muzak, ce qu'on appelle la musique d'ascenseur, est devenu un enjeu dans sa dimension ambientale aujourd'hui. Alors, c'est pas le premier à en avoir conscience. Eric Satie, quand il écrit sa musique d'ameublement, joue déjà de manière d'ailleurs très ironique sur des codes publicitaires, demander la musique d'ameublement. Il préfigure Muzak parfaitement. Et Brian Eno, face à cette possibilité d'une instrumentalisation de la musique à des fins de pacification sociale ou de productivisme dans les entreprises, cherche une solution esthétique. Est-ce qu'on peut pas réinvestir quelque part cette ambiance musicale pour en faire une expérience esthétique qualifiée? Et l'ambient music se tient toujours sur cette espèce de ligne de crête qui essaie de rendre compte de la dimension immersive de la musique et de la possibilité d'avoir une écoute parfois flottante, tout en maintenant une sorte d'attention et d'exigence quant à aux événements sonores, même parfois extrêmement ténus, qui s'y produisent. Et en cela, il a une position qui doit négocier avec cette axiologie entre être baigné dans les sons comme de façon affective et presque comme de l'eau dans l'eau, pour citer Bataille, et d'avoir encore la possibilité d'une expérience esthétique qualifiée.
Brian Eno a toujours aimé les collaborations avec David Byrne, avec Gavin Bryars, avec John Hassell, avec beaucoup, beaucoup de gens. Et là, c'est avec une artiste sonore, Beatty Wolf, qu'il signe deux albums qui sortent en même temps. L'un relève de ce genre ambient music, mais l'autre, J'ai craqué, relève de cette pop dont il a le secret parfois. Brian Eno, Beatty Wolf, Hopelessly at Ease.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
On parle d'art sonore aujourd'hui à la suite dans les idées à propos de Sonder le monde. C'est le titre du livre de la philosophe Pauline Nadrini, pardon. Et on en parle aussi avec vous, Félix Blum. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint à distance, donc on va devoir régler le son avec vous sans vous voir. C'est l'une des choses dont on a parlé tout à l'heure avec Pauline Nadrini. Je vous laisse vous présenter. Je ne sais pas comment on dit. J'ai trouvé sur le web sound artist, mais en français on dit quoi ? Artiste sonore plutôt que musicien.
La traduction littérale serait quand même artiste sonore. Musicien, il y a l'idée de créer soi-même une matière sonore, même si bon, on a évoqué dans la première partie la musique concrète toutes ces autres manières d'utiliser le son. Mais moi, je préfère l'idée d'artiste sonore ou même d'ingénieur du son. J'aime assez bien l'idée qu'il n'y a pas forcément une frontière très précise entre ingénieur du son, preneur de son, artiste sonore, et que finalement, mon travail, c'est peut-être amener les gens à l'écoute ou faire le lien entre des sons et des possibles personnes qui viendraient les écouter.
Vous êtes de formation ingénieur du son ?
C'est ça, j'ai une formation d'ingénieur du son pour le cinéma. J'ai d'abord étudié en France, puis ensuite en Belgique, et j'ai commencé vraiment ma carrière comme preneur de son, principalement pour des projets documentaires. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à aller enregistrer des sons parfois lointains, découvrir des territoires et des gens qui les habitent à travers le son, à travers la prise de son. Et c'est vraiment cette première casquette de technicien ou d'ingénieur que j'ai commencé à travailler avec le son.
Ça ne doit pas être évident de savoir dans quel univers social, je veux dire, on vit, parce que vous expliquez que vous veniez du cinéma, mais aujourd'hui les artistes sonores, on est face à leurs œuvres ou à leurs propositions plutôt dans des contextes liés à ce qu'on appelle les arts plastiques, en fait, plus souvent, donc qui sont très souvent visuels. Comment on arrive malgré tout à exister dans cet univers-là, à rendre possible des propositions artistiques?
Je crois que c'est, on en a parlé un peu dans la première partie, c'est vrai qu'il y a eu un intérêt pour le sonore dans les dernières années, qui se retrouve du coup dans plein de médiums, plein de pratiques différentes. Alors on pourrait voir ça comme un problème, le fait qu'il n'y ait pas forcément une délimitation claire, une catégorisation claire de ce que seraient ces arts sonores. Mais on peut aussi le voir comme un avantage où justement on peut être ni d'un côté ni de l'autre. On n'a pas forcément une barrière précise de où s'arrêteraient les arts sonores ou pas. On peut tout à fait déborder en effet vers la musique, vers la radio, vers les arts plastiques. Et je pense que c'est après à chaque fois de trouver la bonne manière de pouvoir trouver sa place, de pouvoir amener au sonore et de pouvoir en effet focaliser sur le son et sur l'écoute dans des milieux qui sont parfois un peu plus tournés vers le visuel, vers le plastique, vers des choses qui ne sont pas forcément sonores.
Pauline Nadrini, cette indétermination, au fond, est un avantage à plein d'égards. Il n'y a pas d'institution, par exemple, culturelle, qui serait dédiée uniquement à ces arts sonores, que je sache. De grosses institutions publiques.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'indétermination. Je pense que ça se cristallise un petit peu, mais c'est vrai que, pour prendre un exemple, là, je travaille avec une artiste sonore qui s'appelle Mélia Roger et qui fait ses travaux en prise de son, en field recording, au Frénois, dans une école d'art, donc plutôt dans un contexte lié aux arts plastiques et à l'installation. En tout cas, il y a l'idée qu'avec l'enregistrement, la sonorisation, l'électroacoustique, il y a une forme de spatialisation du son qui fait participer les arts sonores des espaces institutionnels traditionnellement liés aux arts plastiques.
Félix Blum, je vous laisse nous décrire peut-être une pièce récente ou ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment, par exemple.
Oui, alors moi je suis arrivé justement dans ce monde des arts plastiques via le sonore quand on m'a proposé en 2015 de présenter une création sonore que j'avais faite pour la radio. C'était une carte postale sonore pour Arte Radio. On m'a proposé de la présenter dans un espace et donc tout d'un coup ça m'a ouvert cette troisième dimension, on va dire, de l'espace d'exposition et de comment est-ce qu'on invite les visiteurs ou les auditeurs à se placer dans cet espace, à éventuellement évoluer, à éventuellement choisir leur lieu d'écoute. Et donc depuis là, c'est là où ça a ouvert toute une série de projets qui se sont beaucoup plus rapprochés de l'installation sonore, plus que de la création sonore telle que j'avais pu la faire au départ pour la radio, pour des médiums sonores uniquement. Alors je vais parler de la toute dernière exposition, au dernier projet que je suis en train de travailler ici à Albi. C'est un projet que j'ai fait avec des personnes, enfin des jeunes et des adolescents sourds et malentendants. Et donc avec eux, on a travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, au cours de plusieurs sessions. Moi avec ma curiosité et eux avec l'idée de pouvoir me partager la manière dont ils écoutent le monde, dont ils écoutent les sons qui les entourent, dont ils écoutent les vibrations aussi. Tout à l'heure, on parlait de vibrations. Donc il y avait cette idée de pouvoir comprendre comment l'autre écoute. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à relier l'écoute au fait d'entendre. Et finalement, avec ce projet, et aussi de plus en plus, j'ai l'impression que ce sont quand même deux activités assez séparées, pas forcément si logiques ou en tout cas pas si naturelles que ça. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, nous, en tendant à entendre beaucoup de sons, être baigné dans les sons un peu au quotidien, un peu tout le temps. Et finalement, on peut aussi écouter en entendant autrement ou en n'entendant pas.
Pauline Nadrini.
C'est une perspective très intéressante parce que le micro, c'est pas une super oreille. David Makers a fait un album qui s'appelle Microphones Are Not Ears. Et ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est aussi toutes ces pratiques d'enregistrement, notamment qu'on dit contact avec ce qu'on appelle des micros piezo, qui fonctionnent différemment que des micros en ambiance aérienne parce qu'ils impliquent la mise en mouvement de particules piezoélectriques. Donc il y a une dimension de contact qui donne une impression d'immersion dans la matière sonore et qui sont liées à l'expérience de la vibration. Donc tout cet aspect kinesthésique, corporel de l'écoute est ouvert aussi par les pratiques d'enregistrement et permet effectivement d'appréhender des écoutes autres qui ne passent pas par l'oreille, que ce soit celle effectivement des malentendants ou des écoutes sourdes, et également des écoutes sur le plan naturaliste, c'est-à-dire de comprendre comment des espèces vivantes écoutent différemment de nous, écoutent par leurs articulations, par des poches d'air à travers cette expérience vibratoire.
Félix Blum, comment on fait avec les questions techniques? Là, on parlait des micros piézoélectriques, il y a des progrès, il y a des évolutions techniques, il y a des matériels qui datent de différentes époques, il y a un savoir-faire technique, vous êtes ingénieur du son, et en même temps, souvent quand on parle de son, on a tendance à tout rabattre sur ces questions techniques. On comprend bien que, s'agissant des arts visuels, par exemple, c'est pas la virtuosité qui va nécessairement faire la créativité la plus intéressante. J'imagine que c'est exactement pareil pour le son. Donc, quel rapport vous entretenez-vous à ces conditions techniques, au fond?
Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une formation technique au départ, en fait, qui vraiment a précédé mon travail d'artiste sonore ou de création pure. Donc, voilà, pour moi, ça a été un acquis dès le départ. Et c'est vrai que, en tout cas pour moi, dans ma démarche, le fait de ne pas être préoccupé par des questions techniques ou par des questions de microphone ou d'enregistreur, enfin voilà, ça me permet de pouvoir libérer du temps et de la liberté pour pouvoir prendre les sons, pour pouvoir créer, pour pouvoir voilà, pas avoir ces contraintes ou ces limites techniques. Cela dit, c'est sûr que on utilise des outils qui captent le réel qui nous entoure, mais qui vont pas le capter de la même manière que nos oreilles. On en a parlé un petit peu dans la première partie. Et donc, je pense que là où se situe un peu le travail plus artistique, c'est savoir comment est-ce qu'on arrive à partager un sentiment sonore, une expérience sonore, comment est-ce qu'on la capte, comment est-ce qu'on éventuellement on compose avec, comment est-ce qu'on la mixe, comment est-ce qu'on utilise tous ces outils techniques pour pouvoir partager une envie ou partager quelque chose avec les possibles personnes qui vont l'écouter par la suite. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr qu'avoir une maîtrise technique, ça permet en effet de pouvoir donner plus de liberté à cela.
Pauline Nadrini.
Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui pratiquent le free recording, qui viennent de l'ingénierie du son, beaucoup plus que de la composition musicale, ou alors aussi qui viennent de scènes DIY, comme la noise,
DIY pour do it yourself, donc voilà, de bricolage.
Quoi. Bricolage, et il y a aussi toute une dimension, voilà, de bricolage, hein, dans ces pratiques de captation de terrain. Je travaillais notamment sur un artiste sonore qui s'appelle Knut Victor, et qui, avec des couvercles de lessiveuse, par exemple, créait des paraboles pour mieux capter les sons, qui avait plein de systèmes pour accéder à des zones enfouies, comme des terriers de lapins, pour enregistrer un lapin dans son sommeil en mettant une chaussette sur la bonnette du micro. Et donc, il y a tout cet aspect, voilà, de bricolage qui me semble assez important. Et il y a toujours quelque part une sorte de balancier entre l'hyper sophistication du matériel, qui peut parfois impressionner, et en même temps beaucoup de pratiques assez créatives avec le matériel de terrain.
Et puis il y a on en parlait tout à l'heure à propos du téléphone par exemple, il y a les usages qu'on fait de ces techniques, non pas pour créer mais pour recevoir éventuellement les créations. C'est cette question-là que vous vous êtes posée aussi, Félix Blum, quand vous avez commencé à réfléchir à ce que vous qualifiez tout à l'heure de situation d'écoute. C'est pas du tout pareil, j'imagine, de créer une œuvre dont on se dit que les gens vont l'écouter sur leur chaîne IFI, leur téléphone portable ou leur autoradio, ou de concevoir un dispositif dans un centre d'art contemporain et de réfléchir à la manière dont les gens vont se positionner pour entendre ou même écouter ce que vous leur proposez.
Oui, c'est sûr que c'est des situations d'écoute qui sont tout à fait différentes, et puis souvent des disponibilités aussi d'écoute. C'est pas la même chose d'écouter quelque chose sur son téléphone pendant un trajet de métro que de faire la démarche d'aller dans un centre d'art, de pouvoir passer du temps à écouter, d'avoir ce temps ou à découvrir ce que l'artiste ou ce que le lieu va nous proposer. C'est un grand avantage de pouvoir avoir cette maîtrise dans les lieux d'exposition, justement sur la manière dont on va pouvoir proposer ces sons et ces écoutes. Cela dit, moi je pense quand même que finalement les contraintes techniques certes sont là, mais elles ne font pas tout. Elles ne font pas qu'elles soient du tout des limitations à la créativité ou à l'envie de créer. Et plus le temps passe, plus on a accès à des enregistreurs de très bonne qualité, même des applications sur téléphone qui permettent de faire des choses quand même de très bonne qualité avec finalement pas grand chose comme matériel. C'est vrai qu'à l'époque de Knut Victor, il y avait pas encore un accès si facile à des enregistreurs de qualité, et malgré ça il a réussi à faire de superbes enregistrements avec beaucoup de patience et avec justement beaucoup de temps dédié à cette recherche de l'écoute, cette recherche sonore. Donc aujourd'hui je pense qu'aussi finalement la technique certes elle est présente, c'est pas forcément ça qui est l'élément important dans le geste artistique ou dans cette invitation à l'écoute.
Vous voulez dire que le numérique, aussi bien dans le processus d'enregistrement que dans celui de diffusion, parce qu'aujourd'hui on peut aussi faire en sorte que tout ça se trouve assez facilement, à changer profondément la donne?
Je pense qu'il y a une certaine facilité, en effet. Alors, est-ce que ça va avec de la qualité? C'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut très rapidement et très facilement faire une prise de son. Et selon ce qu'on enregistre, selon le geste qu'on a au moment de cette prise de son, selon ce qu'on a envie de partager, je pense qu'on peut vraiment, aujourd'hui, avec très peu de moyens, se permettre de faire des choses très belles et de pouvoir, en effet, les partager via le numérique et via Internet.
Comment vous regardez cette question du partage, de la diffusion via Internet de tous ces field recordings, de toutes ces propositions sonores, Pauline Nadrini?
Il y a une dimension collaborative extrêmement importante. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais avec un artiste sonore des concerts qu'on faisait déjà dans les années 2000, qu'on appelait le Placard, Head Festival, où on se retrouvait en stream, en fait, à faire des créations sonores qui étaient diffusées en live, en fait, dans le monde entier. Au fond, je pense qu'il y a énormément de plateformes aujourd'hui comme Freesound, par exemple. Il y a Radio Aporé aussi, qui regroupe des captations de field recording et qui les met en ligne, alors parfois sous forme de cartophonie, parfois simplement sous forme avec un index thématique ou en fonction du lieu, de la date, de différents phénomènes sonores qui ont été captés. Donc je pense que la numérisation, c'est aussi la possibilité de cette collaboration très étendue dans l'écoute des milieux sonores.
Merci beaucoup, merci à vous, Félix Blum. Donc ce travail à Albi, il est accessible au public déjà?
inaugurée. C'est une exposition monographique qui sera inaugurée la semaine prochaine, le 27 juin, et qui sera ensuite disponible, enfin ouverte au public jusqu'au 9 novembre.
Merci beaucoup. On met la référence sur la page de La Suite dans les idées, ainsi que la référence bibliographique du livre de Pauline Nadrini, Sonder le monde, art sonore, réalisme, environnement, qui paraît aux éditions MF.
France Culture, La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Rubrique actualité maintenant à La Suite dans les idées, comme je l'annonçais en début d'émission. On va parler de la journée mondiale des réfugiés, à l'occasion de laquelle le campus Condorcet réaffirme son engagement pour l'accueil et l'intégration des chercheurs, des chercheuses et des artistes en exil, avec une journée, Pascal Laborier, que vous avez baptisée UXIL, UXIL. Vous êtes politiste, professeur de sciences politiques et vous êtes particulièrement en charge au campus Condorcet de ces questions de réfugiés académiques.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, en effet, le campus Condorcet réunit 11 établissements au nord de Paris et un des axes de coopération transversale et à la fois l'accueil des collègues, des étudiants et des artistes sur nos campus, pas simplement dans l'urgence, mais aussi accompagner le moyen de leur qualification en France et qu'ils maintiennent leur activité, ce qui est souvent assez difficile.
Alors, on a beaucoup parlé ces derniers mois à la suite de l'élection de Donald Trump pour la deuxième fois aux États-Unis, de la situation délicate dans laquelle se retrouvaient des chercheuses, des chercheurs américains ou en tous les cas travaillant aux États-Unis, dont les crédits se sont vus immédiatement coupés ou diminués très très fortement. Et donc, on a entendu même des annonces de la part du gouvernement français sur la nécessité d'accueillir ces chercheurs. Mais au fond, le programme PAUSE en particulier, qui sera présent demain dans cette journée, n'a pas attendu cette situation américaine pour s'occuper de cette très vieille question.
Alors, le programme PAUSE existe depuis 2017. Il s'occupe principalement de l'accueil en urgence de personnes à risque. Donc, grâce à ce programme, ont pu venir des collègues de Syrie, de Turquie, soit de zones de guerre, de conflits, souvent menacées de mort, donc des collègues aussi, par exemple, d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak. Pour ce qui est des États-Unis, c'est une question qui est différente, c'est-à-dire qu'il faut différencier le fait d'être en danger et le fait d'avoir des budgets coupés ou des crédits coupés, ce qui est déjà le cas dans plusieurs pays européens, dont la France, d'avoir un budget coupé. Un budget coupé, ça veut dire aussi pour des jeunes docteurs ou post-docs ou des emplois précaires de ne pas continuer leurs emplois. Et aux États-Unis, où il y a beaucoup de chercheurs d'origine étrangère, presque, je crois, 45%, il se peut que des personnes qui, du fait de la coupure des crédits, se retrouvent en effet en danger. Parce que si, par exemple, il y a des femmes afghanes ou d'autres pays qui ne peuvent plus avoir d'emploi, qui n'ont plus de titre séjour, elles ne peuvent pas non plus rentrer dans leur pays.
Aujourd'hui, ces dispositifs ont produit des résultats, mais ça a été rendu possible parce qu'un certain nombre de gens dont vous faites partie, ils ne sont pas si nombreux que ça à l'intérieur de l'université, s'en sont préoccupés, s'en sont occupés, et ce sont des programmes qui demeurent extraordinairement fragiles en fait.
L'ensemble des universités en France est mobilisé sur l'accueil des chercheurs, mais aussi des étudiants, justement pour la reprise d'études. Le programme dont on parle, PAUSE, qui existe depuis 2017, a permis d'accueillir presque 800 personnes, artistes et chercheurs et doctorants. Mais c'est toujours du cofinancement avec les universités. Les universités apportent 40% du budget, donc d'un salaire. Les personnes travaillent à l'université et c'est vrai que c'est très difficile en période de coupes budgétaires, comme on le vit actuellement dans les universités, de continuer à maintenir ce niveau de solidarité académique. Par exemple, PAUSE, à cette période de l'année, ne peut plus cofinancer l'ensemble des demandes qui arrivent. Il y a beaucoup de demandes qui arrivent de collègues qui sont à Gaza, qu'on n'arrive pas à évacuer.
Oui, c'est pas que des problèmes financiers en l'espèce pour prendre ce dernier dossier, l'un des plus brûlants aujourd'hui.
Oui, c'est pas que des questions d'espace, et c'est pour ça que le dispositif POSE, c'est un programme qui allie aussi des tutelles comme le ministère des Affaires étrangères, comme le ministère de l'Intérieur, et ça permet d'aider par les postes à l'étranger à évacuer des personnes via un pays tiers en urgence, quand il n'y a plus d'ambassade dans ces pays, ce qui est le cas de quelques pays.
Alors, tout ça se prend place dans une situation pour le monde académique qui est un peu différente aussi de ce qu'elle a pu être dans d'autres périodes de crise et de nécessaire circulation des chercheurs et des chercheuses. Je veux dire par là que l'enseignement supérieur et la recherche s'est considérablement mondialisé, qu'il y a une sorte de marché de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est constitué, ce qui n'était pas le cas de la même manière dans les années 30, par exemple, ou dans les années 50, s'agissant d'autres scientifiques qui ont eu à quitter leur pays. Ça, c'est une dimension très très importante de la situation actuelle, Pascal Laborier.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, ça a d'autres effets. Le fait d'aller à l'étranger, ça fait quand même depuis au moins l'après-guerre où c'est devenu de plus en plus important, il y a une forme de mondialisation, mais les marchés académiques sont devenus aussi très protégés et sous tension. Parce que finalement, s'il y a marché de l'emploi, s'il n'y a pas un problème de titre de séjour ou de simplement de visa pour venir puis de titre de séjour pour travailler, il n'y a pas de réfugiés académiques. Un exemple, lors des dictatures dans le cône sud dans les années 70, il y a plusieurs collègues uruguayens, chiliens, touchés par la dictature, qui ont pu aller au Venezuela ou au Mexique, avoir des emplois. C'était le moment du boom du pétrole, donc il y avait de très grands recrutements dans l'université. Ils avaient un contrat de travail normal, pouvaient aller en sabbatique en Europe, dans des colloques dans le monde, avoir une vie très importante sur le plan économique, scientifique et intellectuel, ce qui a permis au moment de la reconstruction de la démocratie, par exemple en Uruguay ou au Chili, que des personnes exilées puissent participer à cette reconstruction. Et pour l'Uruguay, plusieurs personnes ont été en France et ont pu revenir. Mais c'est une époque aussi où la question du marché académique n'avait pas la même tension aujourd'hui, puisque on a beaucoup de coupes dans l'université, des universités sont sous tutelle. Bon, on a des docteurs, par exemple en sciences humaines et sociales, dont le temps d'attente d'accès à un emploi est de plus en plus long, des vacataires. Alors on ne parle pas des coupes au même niveau que les universités américaines, tout simplement parce que les coupes sont bien plus importantes que peut recevoir une université comme Paris 1 ou Nanterre.
Peut-être un mot pour terminer, Pascal Laborier, sur ce dispositif UXIL, Université en Exil, qui a été mis en place par notamment le POSE, mais aussi l'Institut Convergence Migration, et qui se déploie sur le campus Condorcet, dont vous vous occupez, et qui dépasse le cadre de cette journée qui aura lieu demain.
Oui, c'est un dispositif que l'ensemble des 11 établissements avec la présidence, c'est-à-dire Pierre-Paul Zaliot, a lancé l'an dernier et qui a été mis sur pied sur la rentrée. Ça permet de travailler avec les personnes qui sont dans cette situation d'exil et leur donner des moyens de création, de participer, de construire des projets scientifiques et pas simplement être accueillis, mais être acteurs de l'enseignement supérieur.
Merci beaucoup, Pascal Laborier. Donc, journée demain consacrée à ces questions au campus Condorcet. On trouve le lien sur la page de l'émission La Suite dans les idées, où vous pouvez également écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata. À la technique aujourd'hui, Timothée Hubert. À la réalisation, Jean-Christophe Francis.